On est donc au deuxième côté de la deuxième cassette. Et la tactique de judoka Le Fourbe, en suscitant chez nous un appétit peut-être exagéré de savoir spirituel, nous fait négliger deux choses très importantes, voire même indispensables. La première, c'est celle-ci. Vous savez que dans le domaine spirituel, encore plus que dans tous les autres domaines, il y a deux sources de connaissances, de lumière, de savoir. Le savoir qu'on se donne, grâce à des cours, des lectures, des sessions, des cassettes, des expériences. Donc, on va acquérir un plus grand savoir. Mais aussi important, sinon plus important, c'est le savoir que Dieu lui-même veut nous donner en direct, si on veut bien l'accueillir. Et je dois accorder plus de temps au second mode. J'irai même plus loin, à la rigueur. Si j'accorde parfaitement à ce second mode d'enseignement, en direct, par le Seigneur, au fond de moi-même, j'affirme sans l'ombre d'un doute, expérience faite, que je pourrais me dispenser de l'autre. Par ailleurs, si je ne reçois que le premier mode de savoir, donc en différé, à travers des cours, des sessions, je vais ici, je vais là, j'achète tout, je découpe tout, je circule partout pour savoir, si je n'ai que ça dans la vie, je plafonne tôt ou tard et j'assimile de moins en moins. Vous savez, il y a un problème sérieux dans l'Église et je vais en parler dans la quatrième interpellation aux archevêques et évêques. Ce décalage que je constate et que je vois de plus en plus entre les connaissances de nos savants théologiens, exégètes, juristes, catéchètes et tout ce que vous voulez, qui multiplient les écrits, les sessions, les cours, les recherches, et le haut savoir spirituel et théologique des gens simples, petits, pas instruits, pas diplômés, mais qui par le second mode de savoir en accueillant le Seigneur en direct, dépasse considérablement, puis j'échappe pas le mot considérablement, dépasse considérablement le niveau général de la connaissance théologique officielle. Et je pèse mes mots. Et je vais l'expliquer. On a donc une élite spirituelle à la base du peuple qu'il va falloir accueillir. Mais pas seulement accueillir ce qu'ils vont nous dire, parce que le Seigneur leur en dit plus que nous autres on a appris dans nos séminaires et qu'on a transmis aux fidèles. Le Seigneur leur en dit plus. Non seulement il va falloir accueillir ce haut savoir que le Seigneur nous donne en direct par ces gens, mais il faudrait également accueillir leur recette de sainteté qui les rend récepteurs, attentifs et fidèles de cet enseignement. Alors, il y a un piège à se laisser distraire par la course au trésor scientifique tout autour de nous. Et à ne pas accorder suffisamment de temps à l'écoute, à la paix, à la disponibilité du grand enseignant qu'est le Seigneur. Deuxième lacune, c'est que quand on est mordu de cette recherche pour devenir des savants spirituels et religieux, on néglige la deuxième chose, la transformation de son être. Vous savez que dans le domaine spirituel, le savoir devrait normalement transformer l'être. Sinon, autant en emporte le vent. Ce n'est pas notre savoir qu'on emporte dans l'éternité. C'est ce que le savoir absorbé, digéré, a fait de mon être. effet de sainteté, de sanctification. Or, pour beaucoup, le désir insatiable de tout connaître pour mieux comprendre, qui est une bonne intention encore, les entraîne dans une surenchère de problèmes, de données, d'explications, de méthodes, de recherches, de priorités, lesquelles engendrent de plus en plus les occasions d'hésitation, de questionnement, de doute, de délai. Je dirais en terminant, gare à la boulimie spirituelle. Il y a là un danger, vous savez. Et moi, j'ai pris cette option de façon radicale il y a 10 ans. J'ai coupé ces choses. On a déjà tout entendu ce qui est important d'entendre quand on a été baptisé, qu'on a vécu comme nous dans une église, dans un contexte religieux chrétien. On a entendu à peu près toutes les grandes vérités, moult fois. Mais on ne s'est pas accordé suffisamment de temps pour digérer, assimiler, réfléchir, vivre, prier et se convertir. Et ça, c'est ça qui est important. Je passe vite à la quatrième fourberie, et celle-ci, je l'intitule « Le soi-disant raisonnable et maîtrise de soi ». Les gens intelligents, vifs d'esprit, soucieux de culture, prétendument maîtres d'eux-mêmes, au moins en public, deviennent vite chatouilleux, voire même scrupuleux, face à tout ce qui semble déroger à ce qu'ils croient, dicté par la saine raison, l'équilibre, la maîtrise de soi. Et ils ont sur ces points un grand rigorisme et tout un arsenal de principes, d'exigences et de critères d'évaluation. Or, comme la vraie, de vraie vie spirituelle est une question d'amour, ça n'entre pas toujours dans leur schéma intellectuel tout fait. Ils ont peine alors à faire une bonne lecture de ce qui se pense, se dit ou se vit en eux et chez les autres sur le plan spirituel. Et au lieu d'avouer humblement leur pauvreté, sous le souffle du malin, ils s'acharnent même davantage à analyser, à scruter, à juger, à soupeser. Comme la vraie de vraie vie spirituelle est avant tout une expérience de vie et non une analyse intellectuelle, une affaire d'amour, comme je viens de le dire, et non une marche ou une démarche de l'esprit, et que, forcément, il s'y mêle des sentiments, des émotions, des enthousiasmes, des options, des priorités inspirées, ils n'y comprennent rien. Et alors, judoka, revenant à la charge, les incite, puisque ça n'a pas l'air raisonnable et raisonné, équilibré, maîtrisé, à être encore plus prudent, plus vigilant, plus méfiant, plus scrutant, plus analysant. Et c'est comme ça que de plus en plus, il les amène dans un autre tunnel cul-de-sac, pour eux-mêmes et pour les autres. Et si, par hasard, ou par miracle plutôt, le Seigneur les rejoint quand même, leur donne une bonne surprise de libération et de guérison et de conversion, ben là, c'est tout un problème, parce qu'ils connaissent toute une série de crises, de doutes. Ça va bien pendant quelques jours, et tout à coup, ils se ressaisissent, mais je ne suis plus comme j'étais, je me vois que je n'ai plus mes contrôles, ça ne rentre plus dans mes catégories. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir illuminé puis capoter? Parce que la notion de raisonnable et de maîtrise de soi n'est plus la même. Alors eux qui avaient assis toute leur vie sur des assises solides se sentent tout désemparés. Et alors Judoka revient encore à la charge. Puis dit, tu sais, faut que tu te questionnes. Tu es en train de devenir excité, tu t'enthousiasmes. Tu te laisses faire, tu t'abandonnes au Seigneur, c'est pas raisonnable. Tu manques de maîtrise, tu manques de contrôle. Il faudrait que tu vérifies ça encore de plus en plus minutieusement. Et alors, c'est une spirale à n'en plus finir. Au moment où ils veulent vérifier, eh bien là, Judoka arrive encore. Puis il les amène à vérifier des petits détails. Alors que ce n'est pas les détails qu'il faut vérifier, c'est l'essentiel. Il les amène à aller consulter des gens qui n'ont jamais eu une expérience spirituelle de renouveau. Donc qui n'ont pas connu ça, ces sentiments d'amour, aller-retour avec le Seigneur. Qui n'ont pas connu la joie de vivre dans le Seigneur. Alors ils vont consulter ces gens-là. Est-ce que vous trouvez que je suis un peu en train de troubler spirituellement? Ils se font dire oui. Parce qu'ils vont consulter des gens qui n'ont pas l'expérience de ça. Ils n'iront pas voir des gens renouvelés, des gens qui ont vécu cette expérience, parce qu'ils disent que ces gens-là ne sont pas objectifs. Vous voyez la notion de l'objectif. Comme si, pour être objectif, il faut consulter les gens qui ne sont pas au courant. Et ça, c'est une des stratégies du fourbe en Église. Continuellement, on veut juger d'une situation, on veut juger d'une nomination, on veut juger de quelque chose, et le malin arrive, puis dit, ben, pour être objectif, il ne faut pas le laisser influencer. Parlez-en pas aux gens concernés. Allez pas voir, parce qu'eux autres, ils ont déjà décidé qu'ils croyaient au Seigneur. Eux autres sont déjà enthousiastes pour le Seigneur. Alors, pour être objectif, allons voir des gens, sous-entendus, ignorants. Et on se fait prendre encore une fois. Alors moi, je suggère à ces gens-là qui sont pris dans la spirale de la remise en cause, est-ce que je suis en train de perdre les pédales, est-ce que je suis en train de devenir illuminé, moi aussi, tout ça. Il n'y a rien qu'une façon d'en sortir. Je vous donne la solution suivante. Quand j'étais professeur à la faculté de nursing ou en administration hospitalière ou dans les écoles d'infirmières, j'avais défini la relation entre le médecin et le malade, ou l'infirmière et le malade, comme ceci. Une confiance qui s'en remet à une conscience. Moi, je ne connais pas ma maladie. Le médecin la connaît. Lui, il a conscience de ma maladie. Moi, je fais confiance à celui qui en a conscience. Mais je dirais que dans ce domaine-ci, pour neutraliser la stratégie du malin, la seule chose ou la meilleure chose à faire, c'est de procéder comme ça. D'aller remettre sa confiance en quelqu'un qui a conscience, donc qui est expérimenté dans ce domaine du renouveau spirituel. Et lui faire confiance. Parce que celui qui est vraiment dans le Seigneur ne peut pas s'amuser à nous tromper. Et le Seigneur ne le laisserait pas se tromper s'il est vraiment en relation avec lui. Ça va? Passons à la fourberie numéro 5. Je l'appelle la fourberie du diagnostic approfondi et continu. Bien entendu, ici encore, il s'agit au point de départ d'une bonne inspiration et d'une bonne intention. Je donne comme preuve à l'appui une brochure que j'ai moi-même rédigée dans les années 70, intitulée « Un bon diagnostic est toujours préférable à une autopsie même bien faite ». Mais dans cette brochure d'une trentaine de pages, j'insiste sur le fait que le bon diagnostic, indispensable au départ, doit conduire aux autres étapes. La thérapeutique, c'est-à-dire le traitement, le pronostic, c'est-à-dire la suite prévue après le traitement, et la prophylaxie, c'est-à-dire l'ensemble des mesures préventives pour ne pas retomber dans le problème. On ne serait pas heureux d'avoir comme médecin traitant quelqu'un qui est un expert en diagnostic, point, et qui viendrait nous visiter dans notre chambre et vous dire « Moi, je sais ce que vous avez, c'est ça que vous avez. » Au revoir, merci et bonne chance. On va voir son médecin pour plus qu'un diagnostic. On veut un traitement, on veut un suivi, on veut une guérison. Alors, une des manœuvres du malin, c'est celle-ci. Il nous amène dans une fixation diagnostique et il nous entretient dans ça. Et on reste fixé sur le diagnostic. Et tranquillement, ça nous conduit à une justification chronique. Je pourrais m'arrêter là, tout est dans ça. Sa stratégie, une fixation diagnostique qui conduit à une justification chronique. Il développe en nous une obsession des causes de notre problème. On y pense, on y repense, on y re-repense. On en parle, on en reparle, on en re-reparle, puis on y reste. On passe son temps à expliquer son malheur, à dire et à répéter que les autres en sont responsables. Nos éducateurs, nos parents, nos amis, un confesseur, un curé, un évêque. Et puis on raconte ça comme si on le déplorait. Et en même temps, on le raconte tout le temps, année après année, comme si on s'y complaisait. Les autres ont beau nous dire, ben, OK, tes parents t'ont fait ça, ben, prends le moyen d'en être libéré pour ça, on dirait qu'on ne l'entend pas. Ils ont beau nous dire comment en sortir, on dit oui, mais un petit oui chétif, puis on reste pris dedans. Ce qui me fait dire que ça, c'est une des manigances du malin, c'est que ces mêmes personnes-là n'agissent pas comme ça dans les autres domaines de la vie. S'ils ont eu en cadeau une maison qui a été mal construite et qui est remplie de défauts, ils ne passent pas le reste de leur vie à vivre dedans et à dire « c'est épouvantable, il n'y a pas de chauffage et puis il n'y a pas d'eau, puis les murs craquent et puis c'est ça ». Non, ils réparent la maison ou ils s'en débarrassent. Les gens qui ont reçu un cadeau de noces défectueux, un poêle défectueux ou un frigidaire défectueux, ils n'ont pas passé le reste de leur vie matrimoniale à dire à tout le monde, vous savez, aux noces, on s'est fait donner un frigidaire qui ne fonctionne pas. Vous savez qu'on n'a pas de frigidaire chez nous. Ils nous ont passé un frigidaire citron, puis on l'a depuis notre première année de mariage. Ils ne font pas ça. Ils s'en débarrassent. Ils vont chercher un autre frigidaire. Quand je vais chez le marchand d'automobile, puis il me passe une voiture, puis ah, ça me coûte plus cher de réparation que le coût de la voiture, après 6 mois, je décide de m'en débarrasser. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait dit, par exemple, ben moi, mes parents, ils m'ont appris le français. Eh bien, moi, je reste pris avec le français pour le reste de mes jours. Je n'apprendrai pas d'autre langue. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont suivre d'autres cours, puis ils apprennent l'anglais, puis ils apprennent l'espagnol, puis ils apprennent l'italien, puis ils apprennent l'allemand, puis ils apprennent le russe. Même si leurs parents leur ont laissé seulement comme héritage tel montant, ils ne passeront pas le reste de leur vie à dire, ben moi, vous savez, j'ai reçu 150 $ d'héritage de mes parents, il faut que je vive là-dessus. Non, ils se reprennent. Alors, comment se fait-il que dans le domaine spirituel, quand ils ont été bousculés au confessionnal, quand ils ont eu une éducation religieuse sévère, scrupuleuse, quand on leur a fait tous des enseignements sur le péché, l'enfer, le sacrifice, le don de soi, d'une façon un peu exagérée, un peu beaucoup, là, ben, ils vont passer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à dire, à redire, à re-redire qu'on les a mal formés, qu'on leur a pas donné ce qu'il fallait, qui sont pris avec ça. Et ils ne se donneront pas la peine de changer, de remplacer, de se débarrasser. Vous savez, il n'y a rien que le malin qui est capable de nous organiser comme ça. Et moi, ça me crève toujours le cœur de voir vieillir des gens et souffrir. Parce qu'ils ont été victimes d'un homme ou d'une femme d'église, ou de la sévérité spirituelle ou chrétienne de leurs parents, ou d'un confesseur qui les a agacés. Mais ce qui est le propre de la stratégie du malin, c'est qu'il s'amuse à leur faire renifler ça continuellement. Un peu comme si on avait un fromage puant, à odeur forte et déplaisante, puis qu'on était obligé à renifler ce fromage-là, puis on passerait le reste de notre vie à dire « c'est-tu infect ?» C'est-tu épouvantable ? Ou même dire « pourquoi est-ce que ça sent comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on m'oblige à sentir ça ?» Eh bien, le malin arrive à cette chose-là. Les causes possibles, ben, moi, 9 fois et demi sur 10, c'est le malin qui nous arrive à nous faire figer dans ce diagnostic. Mais il peut y avoir d'autres causes. Et je le dis, ça peut être inconsciemment 2 pardons qu'on n'a pas encore donnés. Le premier, on ne se pardonne pas de cette fête organisée. Ça nous humilie qu'on ne nous ait pas prêché comme il faut, qu'on ne nous ait pas enseigné les sacrements comme il faut, qu'on ait eu des prêtres, des religieux, des religieuses comme éducateurs, et puis qu'ils ne nous ont pas dit la vérité, puis qu'on ne s'en est pas aperçu à ce moment-là, puis qu'on a avalé ça tout rond. Ça nous humilie, puis on ne se pardonne pas. Ça, c'est possible. Ça veut dire qu'il faut arriver à ce pardon. Puis évidemment, ça peut vouloir dire qu'on ne pardonne pas ces gens-là non plus. En psychologie, on insiste sur la recherche des vraies causes et on nous amène à retrouver la réponse en soi, dans son moi, par soi. Eh bien, comme chrétien, c'est un autre cheminement qu'il faut trouver. Il faut y associer le Seigneur. Si le Seigneur n'est pas associé dans ma recherche des vraies causes, on devrait, parce que dans le fond, lui, il connaît, puis il me connaît mieux que je me connais. S'il n'est pas associé dans la recherche de mes causes, je risque de ne pas les trouver. Mais il faut aussi l'associer dans la recherche des solutions, car lui est mon créateur, mon sauveur, mon sanctificateur, donc il est mieux qualifié que mon moi seul pour trouver la solution. Ça va? Passons à la 6e des fourberies, puis je pense que c'est probablement la dernière qu'on aura le temps d'attaquer dans cet enseignement. Je l'appelle la fourberie des relations publiques. Là encore, vous voyez, je reviens toujours avec son même scénario. À première vue, c'est une excellente idée de penser que l'Église doit avoir, elle aussi, son programme de relations publiques, que les hommes et les femmes d'Église doivent, eux aussi, soigner leurs public relations. Après tout, la bonne nouvelle du Seigneur ne doit-elle pas être à tout prix diffusée, connue, rendue visible et perceptible? Mais c'est là qu'on se fait prendre. C'est dans le « à tout prix ». C'est là la porte d'entrée de judoka. On n'a pas à faire connaître la bonne nouvelle à tout prix, ou plutôt à n'importe quel prix. Et c'est ça qu'il nous faut réaliser pour comprendre sa stratégie, sa fourberie. C'est que quand il nous met dans l'idée de procéder aux relations publiques, bien, il nous met dans l'idée de procéder aux relations publiques sur Terre. Okay? Donc, pas comme ça se fait au ciel, mais comme ça se fait sur Terre. Et ça nous oblige à nous plier aux règles des relations publiques terrestres, humaines. mondaine, noyautée par l'esprit du monde. Donc, gangrené et gangreneux. Et le concept de la publicité qu'on utilise pour se faire connaître, quand je vois certaines communautés qui recourent à toutes sortes de stratégies, certains diocèses, à toutes sortes de stratégies publicitaires pour se faire connaître et attirer les vocations, le concept publicitaire à la mode actuellement, à ce que je sache, corrigez-moi si je me trompe, ne me paraît pas mobiliser essentiellement et principalement sur la gloire de Dieu puis le message de Jésus et le salut spirituel du monde. Loin de là. Donc, en poursuivant notre désir de visibilité plus grande, de popularité plus grande, par la voie, entre autres, des masses médias modernes, devant un auditoire qui s'est habitué et qui demeure ou devient de plus en plus avide de sensationnels, de ventes à rabais, de prix bonis, de compromis à tout prix, eh bien, notre image et notre évangélisation en mangent un coup. Et beaucoup d'hommes et de femmes d'Église actuellement, avec le désir légitime au point de départ de rendre le message du Seigneur encore plus visible, plus perceptible, plus percutant et entraînant et signifiant, nous entraîne actuellement dans le dédale inextricable du périssable des choses de ce monde, nous ambitionne à produire pour produire, car c'est comme ça que ça va dans le monde, nous ambitionne à chercher la manchette, à vouloir être la vedette, et donc autant d'occasions pour nous de perdre pied, de nous enliser, de nous mondaniser, de nous perdre. Pour reprendre cet exemple, ils sont nombreux. Les masses médias sont des spécialistes du montage en épingle et du sensationnel. Puis ils nous défigurent avec dommage et intérêt. Prenez la question du dernier concile extraordinaire. Ils ont tout fait avant pour mettre la guerre entre les participants, la gauche, la droite, les conservateurs, les réactionnaires, les progressistes, le pape comme ci, le pape comme ça. Se basant sur quoi? Sur des impressions, des courants d'air. Mais ils voulaient susciter ça. Regardez ce qu'ils ont essayé de faire avec le sommet francophone, où on avait le premier ministre du Canada puis le premier ministre du Québec. Pendant 3-4 jours, les journaux, la télévision, la radio étaient remplis d'un soi-disant conflit entre les deux, entre M. Mulroney et M. Bourassa. Et ça a fini, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec la supercherie de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, là, ces icônes suintantes et cette statue de la Vierge qui pleure et tout ça? Ils ont fait la manchette, ils ont fait une tempête, parce que ça prêtait à du sensationnel, puis ça a joué contre l'Église. Mais les icônes qui actuellement suintent, les statues qui pour vrai pleurent, et que l'autorité ecclésiastique, après enquête, a reconnues, et qui amènent des conversions, des guérisons, tout ça, vous ne verrez pas ça apparaître dans les masses médias. Alors, on me fait signe que la cassette est terminée. Alors, dans la troisième et dernière cassette, nous terminerons ces fourberies et nous passerons à la troisième partie. Que devons-nous faire face à Judoka le fourbe, alias Satan?